le magazine des Nations Unies.
FRDC et la MONUSCO prolongent leur accord de coopération. La signature de cet arrangement est intervenue mardi dernier. L'accord fixe les modalités d'exécution de l'appui de la MONUSCO au FRDC. Et puis il faut 1,7 milliard de dollars américains pour faire face à la situation humanitaire en RDC. Une conférence internationale d'appel de fonds sera organisée en mars prochain. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU et coordinatrice humanitaire en RDC sera notre invitée. Oxfam sensibilise les enfants sur l'hygiène à l'école. Un projet pilote est en pleine expérimentation avec les visites interscolaires dans la capitale. Explication tout à l'heure avec un expert d'Oxfam. Enfin, plus de 2 millions d'enfants congolais vaccinés en 2017. C'est en tout cas l'un des résultats de la coopération UNICEF-RDC. C'est en tout cas ce qui ressort de la revue annuelle présentée lundi dernier à Kinshasa. Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de MAG-UN présenté par Tina Salama. Nous le disions en signature mardi dernier du prolongement de l'accord de coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Information livrée mercredi dernier par la porte-parole de la mission, c'était lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Cet arrangement a fait suite à l'accord proprement dit signé en août 2016 entre les deux parties. Et cet accord définit les domaines de coopération opérationnelle et les modalités d'exécution de l'appui de la MONUSCO au FARDC. Les propos de Florence Marchal ont été recueillis par Jean-Pierre Lali Ikoko.
Le représentant spécial ad interim du secrétaire général, M. David Gressly, et le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, M. Crispin Atamata-Bimogodi, ont signé hier le prolongement de l'arrangement technique entre la MONUSCO et le ministère de la Défense nationale congolais. Cet arrangement avait été signé le 28 août 2016 et il scelle la coopération entre la mission et les forces armées de la République démocratique du Congo. Il décrit les domaines de coopération opérationnelle et les modalités d'exécution de notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Grâce à cet accord, il existe un meilleur dialogue entre nos états-majors et nous avons une planification commune. Il est important de souligner que cette coopération est soumise à la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme.
Autre chose à présent, l'UNICEF et le gouvernement ont procédé lundi dernier à Kinshasa à la revue annuelle conjointe 2017 de leur programme de coopération. C'était au cours d'une cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu. Il s'est agi pour les experts de faire un bilan des actions menées dans le domaine d'intervention de l'UNICEF en 2017 et d'envisager les axes prioritaires pour 2018. Jean-Pierre Nali Coco nous fait le point.
Bien que la situation humanitaire soit préoccupante pour les enfants en RDC, le représentant AI de l'UNICEF s'est réjoui des résultats obtenus l'année dernière. Et pour Tawduden Olewale, l'évaluation doit concerner les résultats suivants.
La vaccination de plus de 2,5 000 des enfants, la mise en œuvre d'une approche intégrée pour le traitement du paludisme, de la pneumonie et de la diarrhée, la réponse à l'épidémie d'Ebola africaine dans la province de Basse-Ouélé, l'accès aux services de l'eau et l'assainissement.
Dans le même ordre d'idées, le vice-ministre à la coopération, Agé Agem Matembo, a appelé à plus d'implication des autorités territoriales dans la mise en œuvre du programme 2018.
Je demande au bureau pays de l'UNICEF et au comité interministériel de coordination et de suivi de prendre des dispositions appropriées pour l'implication des autorités territorialisées dans la mise en œuvre des plans de travail annuel 2018.
Par la suite, les experts se sont penchés à l'examen des résultats programmatiques dans les différents domaines tels que eau, hygiène et assainissement, l'éducation de qualité pour tous, la protection de l'enfant et les urgences.
Oxfam organise depuis le 31 janvier une série de visites interscolaires dans des écoles périurbaines de la ville de Kinshasa. Objectif: permettre des échanges d'expériences des enfants en matière d'hygiène en milieu scolaire. Ce projet pilote entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme École Assainie en collaboration avec l'UNICEF. Jean-Pierre Lalicoco a assisté à la visite des élèves de l'épée Mémé de Ngelema à l'épée Lokali de Vacation de Massina. Suivez son reportage.
École Assainie.
Mais pas, pas, c'est au livre, pas les maladies, pas,
C'est les slogans qui accueillent les 12 élèves de l'épée Mémé dans l'enceinte de l'épée Locali. Après présentation, les activités. La première, un concours écrit. Épreuve qui sert à juger les enfants sur les 4 normes de certification d'une école assainie. L'inspecteur Jules Labouré-Mayamba, point focal, communication, école assainie.
Les 4 normes sont, au moins 80% d'élèves ont accès à l'eau potable. Deuxièmement, il y a au moins 80% d'élèves qui se lavent les mains au savon ou à la cendre pendant les moments critiques. La troisième norme, 80% d'élèves, filles et garçons cette fois-ci, utilisent des latrines hygiéniques. La quatrième norme, qui est l'école est propre.
Autre activité, la promenade et l'exploration de l'école visitée, l'épée Locali. Les élèves des 3 écoles inspectent, sous la conduite des enseignants, les latrines, les salles de classe, la cour, le point d'eau et les trous d'ordures. Puis, la mise en commun des observations. La méthode est participative. On note critiques et suggestions. Et les débats s'instaurent, avec comme tableau de bord les 4 normes d'une école assainie. Conclusion, l'épée Locali est sur la bonne voie. Troisième activité, la démonstration des lavages de mains. Quasiment un test, suivi à la loupe par l'auditoire. Les élèves passent à l'épreuve à tour du rôle. Au finish, le plébiscite pour tous les compétiteurs. Claude Mbangama, enseignant de l'épée Mémé, remercie Osfam.
On ne connaissait pas comment mettre de la propriété à l'école. Osfam, par la voix des inspecteurs qui nous apprennent toujours chaque fois comment améliorer l'école.
Et les conseils d'Emmanuel, 11 ans.
Et avant de manger, il faut laver les mains. Et apprendre à voir utiliser les latrines.
Ce projet pilote déroge-t-il aux missions traditionnelles des Osfam? Jusqu'où ira-t-il? Quels en sont les bénéficiaires? Réponse du directeur des provinces ouest de l'Osfam, Raphaël Mbouyi.
Là, nous sommes dans une nouvelle expérience pilote avec UNICEF qui est notre bailleur. Premièrement, c'est assurer une permanence de l'eau dans les écoles. Deuxièmement, c'est avec la mise en œuvre de latrines scolaire, mais particulièrement aussi adapté aux besoins spécifiques des filles. Et le troisième aspect, c'est par rapport au plaidoyer.
Un projet pilote, est certes, mais qui assure le développement de l'enfant dans son environnement.
Nous allons donc décortiquer ce projet pilote tout à l'heure avec le directeur des provinces ouest d'Oxfam dans notre rubrique Décryptage.
Magazine des Nations Unies, Décryptage.
Comme nous venons de l'évoquer, nous allons donc parler du projet pilote École assainie. Il s'agit donc d'un projet que Oxfam est en train d'expérimenter dans les écoles des communes périurbaines de la capitale grâce à une approche tout à fait originale basée sur les visites interscolaires. Pour en parler, Jean-Pierre Lalicoco reçoit un Raphaël Mbouyi, il est directeur des provinces Ouest Oxfam. Suivez.
Raphaël Mbouyi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Généralement, on connaît l'OSFAM dans le domaine d'intervention carrément humanitaire en cas de crise humanitaire ou de catastrophe ou même des épidémies pour l'assainissement, surtout l'accès à l'eau potable et à l'aménagement de ces milieux. Alors, d'un coup, on vous retrouve dans des activités interscolaires sur le projet École assainie. Qu'est-ce qui justifie votre enthousiasme et quelle importance vous y accordez?
Il est vrai que Oxfam est beaucoup plus visible par ses interventions dans le domaine dit humanitaire, donc de réponse d'urgence. Mais Oxfam travaille également dans le domaine de développement, dans le cadre du programme humanitaire, donc des réponses d'urgence. C'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous sommes très visibles dans nos programmes dans le pays. Mais aussi, Oxfam lutte contre la pauvreté dans le cadre de ses programmes de développement où il accompagne les communautés à se relever du conflit après les conflits et à reprendre le contrôle de leur vie et à continuer leur vie normalement. C'est effectivement dans ce cadre de programme de développement que s'inscrit notre programme d'intervention dans les cadres du programme Village École assainie, où nous sommes beaucoup intervenus aussi à l'intérieur du pays, dans les différentes provinces, parce que le programme Village École assainie, c'est d'abord un programme adapté en milieu rural. Là, nous sommes dans une nouvelle expérience avec UNICEF, qui est notre bailleur dans le cadre du programme Village et École assainie, une expérience pilote, je disais, dans le cadre du milieu périurbain. le choix a été fait sur les écoles pour voir comment cette expérience fonctionnerait dans l'école dans le cadre de l'amélioration de l'environnement scolaire avec la mise à disposition de l'eau au profit des enfants, des latrines, mais aussi c'est un programme pilote qui prend trois aspects innovatifs que nous avons voulu expérimenter dans le cadre de ce projet. Premièrement, c'est fournir de l'eau en utilisant de l'eau à partir de forages mécanisés, le système solaire pour pomper de l'eau et assurer une permanence de l'eau dans les écoles. Deuxièmement, c'est avec la mise en œuvre de latrines scolaires, mais particulièrement aussi adaptées aux besoins spécifiques des filles à l'école qui ont déjà atteint un certain âge par rapport à leur développement en tant que femmes. Et le troisième aspect, c'est par rapport au plaidoyer, c'est-à-dire nous voulons engager nos enfants à comprendre l'importance de la gestion participative de leur environnement et de s'exprimer dès les bas âges, à apprendre à exprimer leurs besoins, à collaborer avec les autorités, pour que quand ils seront grands, ils soient des vrais citoyens qui prennent en compte et en charge leurs besoins dans la société et dans leur environnement.
Parce que vous parlez des écoles et vous parlez de l'avenir des enfants, c'est bien, mais aujourd'hui nous avons assisté à une visite interscolaire et des échanges entre les différentes écoles de la capitale. Il y en avait trois aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous visez en organisant ces genres de visites?
Ces genres de visites visent premièrement un échange d'expériences entre les enfants, c'est-à-dire qu'ils quittent leur milieu, qui vont visiter les élèves ou les enfants d'un autre milieu dans leur environnement scolaire, échanger sur les problèmes auxquels les uns et les autres font face dans leur école, essayer de permettre aux enfants de créer cette dynamique d'échange interscolaire. C'est préparer nos enfants à un avenir différent qui les permet d'être engagés et d'échanger comme des communautés ayant les mêmes intérêts par rapport aux problèmes qui se posent dans leur environnement.
Et là, précisément, il s'agissait de l'eau potable et de l'assainissement du milieu scolaire.
Oui, il s'agissait effectivement de l'eau potable. Ça veut dire que il y a une approche qui a été développée avec les enfants à travers un partenaire qui est aussi dans le projet REIP qui encadre les enfants. Donc c'était très important pour que les enfants qui ont compris et qui parlent de l'importance de l'eau dans leur environnement scolaire, comme ils disent, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la santé. Donc pour mieux réussir à l'école, pour mieux travailler à l'école, pour faire de bons points à l'école, il faut avoir la bonne santé. La qualité de l'eau participe énormément à la santé, à l'hygiène à l'école et donc c'est très important. Quels sont les impacts que l'absence de l'eau, l'absence de l'assainissement dans leurs écoles respectives ont sur leur santé, sur leur rendement à l'école? C'est tout ça, autour de tout cela que ces enfants devraient échanger.
J'ai vu aussi qu'un concours a été organisé et à l'issue duquel les élèves ont reçu des cadeaux.
Oui, effectivement, les concours visaient plus à s'assurer que les enfants ont une très bonne intelligence de tout ce qu'on a fait avec eux, mais aussi c'est plus de créer l'émulation, le sens de l'émulation dans les chefs de nos enfants. C'est cette approche de vie que nous voulons effectivement inculquer à nos enfants. Cela justifie également ce concours qui a été organisé.
Par curiosité, j'ai remarqué la construction des latrines bien élaborées par l'OSFAM, avec une particularité, la prise en charge des jeunes filles en procréation.
Oui, effectivement, c'est un projet mis en œuvre par Oxfam sous financement de l'UNICEF. Comme je le disais il y a peu, il y a effectivement la prise en compte de besoins spécifiques de jeunes filles qui atteignent un certain âge, c'est-à-dire disons l'âge de procréation. Et cela doit être pris en compte pour que l'enfant ne se sente pas mal à l'aise quand elle est à l'école.
Et pour terminer, une bonne expérience de l'OSFAM qui s'engage en milieu scolaire, que vous avez l'intention d'étendre cette expérience à l'intérieur du pays. Et vous allez commencer par où après Kinshasa?
C'est un projet pilote, comme nous avons dit. C'est une expérience que nous venons de faire avec notre bailleur de fonds et partenaire UNICEF. Nous avons l'ambition de continuer les projets dans l'ensemble du pays en prenant en compte les spécificités de chaque environnement, selon que nous sommes dans un environnement périurbain ou urbain ou rural, particulièrement ce qui concerne l'innovation dans les latrines pour les jeunes filles, mais également en prenant en compte toutes les autres données du système éducatif congolais. Nous allons profiter de votre micro pour faire appel aux différents bailleurs de fonds également, auprès de qui nous allons nous adresser avec notre partenaire UNICEF, pour que la porte soit ouverte à la mise à l'échelle de ce projet pilote que nous venons de réaliser.
Et Monsieur le Directeur, Radio Capi vous remercie.
Et c'est moi qui vous remercie.
D'abord, cette information qui pourrait intéresser les journalistes. Hein. Il s'agit de l'appel à candidature pour le programme de bourse d'études proposé par le Fonds Amarchold aux journalistes professionnels des pays en développement. Les journalistes congolais âgés de 25 à 35 ans travaillant à la radio, télévision, presse écrite ou web qui sont intéressés par les affaires internationales peuvent déposer leur candidature. Les 4 journalistes congolais qui seront sélectionnés séjourneront à New York en vue de soumettre un rapport des délibérations de la 113e session de l'Assemblée Générale de l'ONU aux médias. Les inscriptions se clôtureront le 12 mars prochain. Et puis la FAO chevet des populations du territoire de Mweka dans le Kasaï. Au moins 500 ménages de déplacés des familles d'accueil ont reçu des outils aratoires et des semences. C'est au cours d'une mission conjointe FAO, ministère de la Coopération, organisée du 26 au 30 janvier dernier dans cette partie du pays. Les deux institutions ont également évalué les besoins supplémentaires de la population pour le renforcement des activités en cours. Lutte contre la grippe aviaire. Une 60aine d'agents vétérinaires publics des ex-provinces du Katanga et du Kasaï ont été formés sur la surveillance et la riposte des maladies animales, dont la grippe aviaire. C'est au cours d'un atelier de renforcement des capacités organisé par la FAO du 29 janvier au 2 février à Lubumbashi. Les apprenants ont été informés notamment sur les techniques d'investigation épidémiologique, la détection de la maladie et l'abattage de la volaille contaminée.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Et notre invité dans MAGUN aujourd'hui est Madame Kim Bolduc, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire en RDC. Madame Bolduc vient d'effectuer une tournée à l'intérieur du pays où elle dit avoir palpé la souffrance des milliers de personnes et visité des projets en cours d'exécution. Il faut, dit-elle, 1,7 milliard de dollars américains pour répondre aux urgences humanitaires et sauver des vies humaines en RDC. Elle annonce pour ce faire la tenue d'une conférence internationale des bailleurs de fonds pour la RDC en mars prochain. Madame Bolduc s'entretient ici avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Kim Bolduc, bonjour.
Bonjour monsieur.
Oui, vous venez de faire une tournée à l'intérieur du pays, notamment au Kasaï, et au Nord Kivu et au Tanganyika. Quel a été les constats que vous avez fait sur place, sur le plan général?
Je me suis beaucoup intéressée à l'efficacité de l'aide que la communauté internationale dans son ensemble a apporté jusqu'à présent en RDC. Et je me suis intéressée à voir les résultats de cette aide sur les populations, soit déplacées, soit affectées par la violence et le conflit. Je me suis rendu compte que ce que nous sommes capables de faire ne représente qu'un pourcentage des besoins. Et ceci m'a alarmée, au point que maintenant je n'arrête pas de faire des appels sur la situation de RDC pour obtenir plus de générosité de la part des bailleurs.
Concernant justement ces besoins d'urgence, et vous avez fait allusion à une conférence, est-ce que nous pouvons comprendre le contour de cette conférence et aussi quand est-ce qu'elle pourra avoir lieu?
En ce moment, cette conférence qui sera lancée par le coordinateur humanitaire mondial, M. Marc Lokoff, est prévue pour fin mars.
Pour la RDC?
Pour la RDC seulement. Et pour la RDC seulement, nous demandons une enveloppe de 1,7 milliard de dollars afin de pouvoir venir en aide de façon urgente à 10,5 millions de personnes.
Et vous avez fait allusion à quelques défis rencontrés sur place, notamment les infrastructures routières pour l'accès humanitaire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui viennent en ce qui concerne la collaboration avec les autorités congolaises?
Nous avons besoin des autorités congolaises pour nous aider parce qu'elles sont partout à l'intérieur et nous allons faire ce que nous pouvons avec les fonds qui sont disponibles. Mais les autorités congolaises gouvernent les provinces et ont des moyens que quand elles mettent à notre disposition particulièrement, entre autres les facilités d'accès, nous allons pouvoir faire beaucoup plus. Vous savez que le réseau routier en RDC est très souffrant.
Et alors, madame, vous avez dit tout à l'heure que vous avez pu palper la souffrance des populations et vous avez peut-être eu des contacts avec cette population, surtout les jeunes et les femmes qui souffrent. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces personnes?
J'ai été extrêmement impressionnée et émue par ce qu'elles m'ont dit. Après m'avoir raconté leur histoire, chacune d'entre elles, c'est-à-dire des tragédies horribles, où elles ont perdu leur mari, leurs enfants, où elles ont été victimes d'agressions sexuelles, elles se sont retournées vers moi et elles ont dit « Donnez-moi un peu de semences et quelques outils. Je veux refaire ma vie. » Et il y avait des jeunes filles qui étaient victimes d'agressions sexuelles à qui j'ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Elles m'ont dit « Je veux aller à l'école. »
Vous avez, pour terminer, madame, apprécié le travail des agences humanitaires sur place et des agences des Nations Unies. Et quelque part, vous avez dit « Apprécier ». L'action multidimensionnelle, en d'autres termes, l'action simultanée de ces opérations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus?
Oui, je m'inquiète énormément, même si je suis la coordinatrice humanitaire et ma vie, je l'ai passée dans les opérations humanitaires. Je sais que quand l'urgence humanitaire grandit, le pays est en danger. Ceci veut dire que plus de personnes ont perdu la capacité de vivre par elles-mêmes. Ça veut dire que pour éviter que ceci arrive, c'est-à-dire l'expansion comme une tache d'huile, n'est-ce pas, de la dépendance à l'aide humanitaire, nous devons rentrer de façon simultanée avec l'aide immédiate, mais aussi avec les intrants nécessaires pour que ces personnes reconstruisent, plantent, récoltent, vendent et s'organisent. C'est ce qui redonne la dignité humaine à ces populations parce que, comme j'ai dit, je refuse de les voir comme des victimes.
Madame Bourduc, Radio Capi vous remercie.
Je vous remercie.
Et notre nouvelle de Provence partira du Sud Kivu, où plus de 300 jeunes d'Ouvirasson, près de la plaine de la Ruzizi, ont été sensibilisés vendredi dernier sur la lutte non violente, les techniques de plaidoyer, ainsi que sur les élections transparentes et apaisées par la section des affaires civiles de la MONUSCO Ouvira. La section appuie à des activités organisées par la société civile et les organisations locales des jeunes en collaboration avec la CENI. Fisson Goma recueillit les réactions de certains jeunes sur les processus électoral.
J'ai remarqué que les jeunes se fiaient aux rumeurs, sans disant qu'il n'y aura pas d'élection, sans disant qu'on va continuer dans l'existement. Moi aussi, j'étais en confusion par rapport à cela, mais à partir des interventions, je suis sûre qu'il y aura élection et vraiment, les jeunes ont refusé, ne vont pas troubler la situation parce qu'il y a déjà le calendrier électoral qui est déjà établi. Ce que je peux demander au gouvernement congolais et qu'il n'y ait pas de réponse aux élections, la date qu'on a fixée, que ça soit la date prévue des élections.
D'ailleurs, il y a certains qui commençaient déjà à dire que la machine à voter ne va rien résoudre à cette occasion. Ça va encore retarder. J'ai compris que vraiment les jeunes étaient préoccupés. Recommander aujourd'hui à la CENI d'écarter la machine à voter, ça ne sera pas facile. Et quand ils expliquent ça, ils vous disent que c'est ce qui réduit même les coûts des élections.
Des questions pendantes par rapport à la CENI. Pourquoi ils ont attendu longtemps? Pourquoi ils n'avaient pas organisé bien avant? Pourquoi beaucoup de contraintes? Pourquoi on ne devrait pas imiter les élections de 2006, de 2011? Beaucoup de questions alors à la MONUSCO et à la CENI de trouver une occasion encore pour l'espace d'échange, de sensibilisation avec des jeunes.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche concerne l'extradition du colonel John Tshibangu et son procès. Question posée mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Et la réponse est de Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO.
Saint-François Katumba, le colonel Tshibangu a été extradé à Kinshasa en provenance de la Tanzanie pour son procès qui aura bientôt par le ministre de la Justice, selon ce qu'il a dit. Est-ce que la MONUSCO va suivre le bon déroulement de ces procès pour faire une réponse à qui des droits?
Alors je vous confirme que nous suivons ce cas, que le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme suit ce cas. Et nous appelons à la tenue d'un procès équitable pour Monsieur Tshibangu.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, pour moi c'est Trésor Batachiana Kishala. Voilà, je suis administrateur national à la protection pour le bureau du HCR Badolité. Je suis Marianne, très jolie femme, le père d'une fillette. Je suis juriste de formation à l'université de Kinshasa. Je suis au HCR depuis février 2015. J'avais commencé dans la province du Bas-Congo à l'époque, dans le bureau de Kimvula. Et depuis lors, je chemine Bas-Congo, Katanga, Pueto Moba, Beni, Bunia. Et ensuite, je suis présentement à Bado, chargé de la protection. Ouf, la journée du travail. La première des choses, c'est lire les mails. S'il y a des mails très urgents auxquels il faut répondre, je commence toujours par là. Et ensuite, je reviens au planning de la journée que j'ai laissé pour voir s'il y a des dossiers à traiter. Et ensuite, il y a tous les entretiens avec les réfugiés, l'orientation des collègues, l'orientation des partenaires. Voilà, donc c'est souvent comme ça. Donc c'est toujours une journée pleine. Oui, avant l'HCR, juste après mes études universitaires, j'étais employé chez Oxfam Québec, une ONG internationale. Et ensuite, depuis une année à l'Oxfam Québec, et depuis lors, je suis au HCR. Mon temps libre, je reste avec ma famille. Et souvent, c'est soit en écoutant un peu de musique, et le week-end, souvent, le samedi, dimanche, c'est plus le sport que je fais le matin. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup plus. Et le soir, quand on a un peu de temps libre, je fais un peu de lecture, voilà, pour un peu rafraîchir. Et surtout, ne pas oublier les notions de droit que nous avons apprises à l'université. Oui, j'aime la musique chrétienne. La musique chrétienne, l'or mbongo, et la pauvre sœur Marie Nissamo. J'aime beaucoup leur musique. Sport, je fais la marche, comme je l'ai dit, le week-end souvent, mais le foot aussi, je joue aussi au foot de temps en temps. Oui, en RDC, je suis supporter d'abord de l'équipe nationale, non Léopard, mais aussi les Tout-Puissants Mazembe. Mais aussi le plan international, c'est le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, oui, j'aime bien la noter, j'aime la bonne cuisine. Congolaise, oui, j'aime les pondous, les poissons et les foufous. C'est tous les poissons tilapia et comme il y en a beaucoup à Badolité, non, je me sens très bien. Oui, après les HCR, c'est vrai que tout début a une fin, mais après les HCR, je pense travailler pour la nation congolaise, d'une manière ou d'une autre, pour la population congolaise, particulièrement les vulnérables. Voilà. Ah, ok, merci beaucoup, je salue mon papa, monsieur Léon Kishala Kiana, qui est un auditeur fidèle de Radio Okapi. Et je salue également ma femme et ma fille. Et je salue tous les collègues du HCR, tous les collègues partenaires. Et nous sommes là pour le travail du HCR. Merci beaucoup.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques rendez-vous à noter dans vos agendas. Le 12 février, c'est la journée internationale des enfants soldats. Et puis le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Et on pourrait être ajouté pour les amoureux. Le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin. Voilà. Voilà, c'est de la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, à la mise en onde Polydor Basunga. Ce magazine a été coordonné, réalisé par Jean-Pierre Elali Coco, qui est également reportage. Merci à Martin Sebougin-Wick qui l'a supervisé. On se dit à très bientôt sur Radio Capi. Ciao.